Bonjour à tous. Ça fait un moment depuis que j'étais là, dimanche matin. Voilà, ça fait plaisir de vous d'être avec vous ce matin. Et j'étais à la rive droite pendant une vingtaine d'années, comme vous savez, qui me connaissent. Et maintenant, nous sommes sur Saint-Médard. On est en train d'implanter une nouvelle église sur Saint-Médard. Et donc, on vous demande de prier pour nous que cette œuvre puisse avancer sur Saint-Médard en Jarl. Et c'est un plaisir de servir là avec la famille Teach Out. Et nous sommes dans notre église en train de faire une série de messages dans le livre d'Épître aux Philippiens. Donc on va éventuellement regarder là dans ce... En fait, on vient de le finir, donc si vous avez votre Bible, on va regarder dans l'Épître aux Philippiens. Voilà. Mais avez-vous jamais considéré combien de publicité que vous voyez chaque jour? J'ai entendu récemment qu'on risque de voir peut-être 300 publicités par jour, soit à travers la télé, soit... dans notre voiture en train de rouler, il y a des panneaux de publicité. Les publicités arrivent à travers notre téléphone, n'est-ce pas? Donc, toutes sortes de publicités qui viennent à nous, même sur Internet. Si vous êtes sur Internet, il y a des publicités sur Internet. Il faut dire aussi que certaines publicités sont même dirigées vers les enfants, n'est-ce pas? Et pourquoi? Ceux qui font de la publicité savent que, justement, les enfants influencent leurs parents à acheter des choses. Donc, mais quel est le but de la publicité? Qu'est-ce que la publicité cherche à faire? Quelque part, il cherche à nous faire légèrement mécontents si nous n'achetons pas ce qu'il propose. D'autres publicités et promotions nous encouragent à acheter davantage en baissant le prix, au point qu'on a du mal à résister à cette promotion. Ma mère était tombée dans ce piège quand elle est décédée. On avait dans la maison tout un mur aussi grand que ça, avec des paquets de papier hygiénique, papier... des serviettes en papier, des essuie-tout, et donc on a fait une grande distribution aux amis de tous ces paquets de papier. D'ailleurs, nous sommes souvent dans l'attente d'acheter une nouvelle voiture, un nouveau gadget, comme si ce téléviseur plus grand rendrait notre vie meilleure, ou une plus belle voiture rendrait notre vie plus heureuse. Et donc, nous sommes toujours un peu mécontents de ce qu'on a. Et ce matin, on aimerait bien voir ce sujet du contentement. Est-ce que vous êtes contente aujourd'hui avec ce que vous avez? Des fois, qu'est-ce qui rend une personne mécontente? Souvent, on a des attentes. Et la réalité est parfois différente de ce qu'on espère. On a moins qu'on veut. Et cette différence entre ce qu'on veut et ce qu'on a, ce que la réalité a donné, c'est un peu comme un chasme de mécontentement. Et plus le chasme est grand, plus on est mécontent. Dans le premier siècle, pensons à Paul et même aux apôtres. Un jour, les apôtres, ils prêchent, ils sont tous arrêtés et mis en prison. Ils sont miraculeusement délivrés par un ange qui a fait en sorte que tous sortent de la prison. Ils commencent à reprêcher. Ils sont arrêtés à nouveau. Et nous serions contents d'être libérés. Et mais quand ils sont arrêtés la deuxième fois, ils seront même battus de verges. Le texte juste dit comme ça, ils étaient battus de verges. Mais ça impliquait probablement 39 coups. Et qu'est-ce qu'ils font à la fin de ça? Quelle est la réponse dans Acte 4, 5 là, verset 40? Ils se réjouissaient. Il se réjouissait. Pourquoi? Parce qu'il s'attendait à ça. Jésus les avait prévenus. Si vous me suivez, vous risquez d'être battus. Vous allez être persécutés. Donc, parfois, à quoi nous nous attendons, c'est ça qui nous rend mécontents. Mais on va regarder, il y a Paul qui est en prison et quand même dans l'épître aux Philippiens, il va dire à peu près 18 fois, il va parler de la joie. En prison, Paul parle de la joie. Quel exemple pour nous. Donc on va voir ici dans le chapitre 4, Paul qui est content dans sa situation là, où il est. Dans le chapitre 4 là, et c'est dans un passage qui justement parle de... il est en train de remercier l'Église d'un don qu'il a reçu. Mais il ne veut pas que l'Église pense que, bon, je m'attendais à ça. Il est grand temps que vous m'envoyiez quelque chose. Non. Donc, verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à vous avoir refleurir votre intérêt, votre pensée pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Et je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance et tout en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. Être dans l'abondance et être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et donc, si vous continuez à lire là, vous verrez dans le verset 14, il commence à parler plus de ce don qu'ils avaient envoyé. Mais on va arrêter notre lecture là ce matin. Et donc, ce matin, nous voulons voir ce sujet. Comment pouvons-nous vivre dans le contentement? On va regarder, considérer d'abord quel est le contentement. Et donc, premièrement, on va voir un exemple, mais avant d'arriver à cet exemple, définissons l'idée de contentement. Ce mot « content » qu'on voit dans notre texte là, où Paul dit « je suis content », j'ai appris à être content, me contenter, ce mot vient de deux mots en grec. L'un veut dire satisfaction ou plein. C'est ce qu'on expérimente, éprouve après un bon repas. Et on est très content de ce qu'on a pu manger. Et Paul emploie ce mot-là, content, de satisfait. Et un autre veut dire auto, qui veut dire en soi. Donc, une auto-satisfaction. Ici, la satisfaction vient de ce qui est à l'intérieur. Et Paul va nous dire en tant que chrétienne, il va nous dire en tant que chrétienne d'où ça vient pour nous, plus tard dans ce passage. Donc souvent on pense à la publicité cherche à nous convaincre que c'est ce qui est à l'extérieur de nous, ce que nous n'avons pas, qui va nous rendre heureux. Tandis que le mot content a l'idée de ce qui est à l'intérieur, qui nous rend heureux. Mais parlons justement de l'ambition et désir. Paul n'avait-il pas d'ambition? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui que Paul n'avait pas d'ambition ou désir? Si. Des fois, il exprime dans ses lettres, j'ai le désir de vous revoir. Il parlait aux gens à l'église de Rome disant, je veux passer par vous en allant vers l'Espagne et je veux que vous m'accompagniez sur ce nouveau trajet missionnaire en Espagne. Donc, Paul avait des désirs et des ambitions. Donc, quand on parle d'être content, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir d'ambition ou de désir. Même par rapport au travail. Si on pense à un bâtiment comme notre travail, on aimerait bien arriver au 10e étage, mais peut-être pendant notre vie, on va avoir ah, je n'arriverai qu'au cinquième étage. C'est-à-dire, je ne vais pas arriver au top dans mon entreprise, mais la personne apprend à être contente avec ce que Dieu donne. La personne considère ce qu'elle a comme la volonté de Dieu. La même chose avec les possessions. Des fois, on a l'ambition d'avoir une belle voiture. J'avais un ami au lycée et son but était d'avoir une Porsche, une voiture très chère. Je ne sais pas s'il l'a jamais eu, mais c'était son ambition. Et des fois, on a des ambitions pour une maison ou pour un genre de voiture, mais on voit que non, ça ne va pas être possible. Et quand même, on arrive à être content. Mais où est Paul quand il écrit cette épître? Où est Paul? Donc, Paul, il est en prison. Et là, Paul était content. Il est content avec ce qu'il a, ce qui est à l'intérieur, ce qu'il a trouvé. Et donc, Paul est un exemple pour nous de celui qui est content. Il parle de vivre dans l'humiliation, là. Regardons dans le verset 12. « Je sais vivre dans l'humiliation. » Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Si on regarde bien plus tard, il va dire avoir faim. Il va dire aussi être dans la disette. Donc, Paul pouvait être content même si il n'avait rien à manger. Ma femme dit que c'est quand j'ai faim que je suis le plus désagréable. Quand est-ce que les enfants d'Israël commencent à murmurer? Quand ils avaient faim ou s'ils avaient soif. Mais Paul, même quand il était dans une privation, il n'était pas mécontent. Il était content. Il a dit, j'ai appris à vivre dans des conditions difficiles, être content. Mais Paul savait aussi vivre dans l'abondance. On dit, ça serait pas difficile, mais parfois, l'abondance entraîne un désir pour avoir plus. Vous avez sûrement entendu l'exemple de John D. Rockefeller, qui avait 912 millions de dollars à sa mort, et quand même, on lui a posé la question, combien faut-il pour être heureux? Et sa réponse, c'était, juste un peu plus. Juste un peu plus. Et c'est ça, des fois, avoir engendre le désir d'en avoir plus. Mais Paul était quelqu'un qui a appris à être content avec ce qu'il avait. Par moments, il était dans l'abondance. Il était, son équipe et lui étaient logés chez Lydie à Philippe. Pendant un moment, Lydie était quelqu'un qui était un commerçant et qui avait des moyens, une maison suffisamment grande pour loger Paul et son équipe. Elle voulait les avoir. En plus, Paul vendait des tentes, peut-être au gouvernement de Rome qui avait besoin pour ses soldats, et par moment, après avoir vendu des tentes, il avait plus de moyens, il avait une abondance. Mais ça n'a pas entraîné chez Paul un désir démodéré pour plus. Donc, pour nous, Paul est un exemple de contentement. Il pouvait vivre sans rien à manger. Il pouvait vivre aussi dans l'abondance. Et puis, on va voir ici l'apprentissage du contentement. L'apprentissage. Paul résume son expérience au verset 11 disant, j'ai appris. C'est-à-dire, ce n'était pas quelque chose instinctif. Il fallait qu'il apprenne. Et donc, il résume ce processus comme, j'ai appris. Et maintenant, il peut dire, je sais vivre dans l'humiliation ou dans l'abondance. Mais comment Paul apprenait cette leçon de contentement? On peut dire que Paul savait que justement le monde matériel C'est pas ça qui satisfait. Le contentement ne vient pas des choses matérielles, d'une abondance matérielle. La loi que Paul connaissait bien lui mettait en garde contre le piège de l'abondance. Deutéronome 8, 11 dit, « Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements quand Dieu te ferait prospérer. » Et c'est vrai, l'homme oublie souvent Dieu quand tout va bien. Et Paul le prenait aussi par ce qui lui arrivait. Des fois, on est dans une épreuve ou des difficultés de la vie, et on dit, mais qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Qu'est-ce que Dieu est en train de m'apprendre maintenant? Mais parfois, la réponse serait d'être content. Et ça, c'est l'une des choses que Dieu veut nous apprendre. Et c'est à travers les expériences de la vie que Dieu est en train de nous apprendre. Des fois, on a un travail, et les gens regardent le travail, comment est-ce qu'on peut... Bon, je vais vous dire une chose, voilà. Aux États-Unis, on n'a pas une formation pour justement faire le ménage. Vous savez, en France, il faut presque un brevet ou quelque chose, si on veut faire le ménage dans un bâtiment ou quelque chose comme ça. Et aux États-Unis, on apprend ça plus, voilà, le balai, faire dans le coin là aussi bien que tu peux, et on commence comme ça, et on apprend en faisant. Et je dirais, par rapport à le contentement, il faut être dans des situations qui nécessitent le contentement, qu'on apprend le contentement. Donc c'est une chose que on a besoin de vivre pour avancer dans ce domaine. Et donc chaque situation que nous vivons est une chose importante. Regardons chapitre 1, verset 6. Où Paul dit là, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Et donc, Dieu est en train d'œuvrer dans votre vie à travers les circonstances, les épreuves, et chaque épreuve, chaque situation nécessite de votre part une réponse. Est-ce que je vais me contenter de ce qui est là? Encore dans le chapitre 2, versets 12 et 13, Paul dirait là, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. » Et donc, Dieu est toujours à l'œuvre en nous, par rapport à ce qui nous arrive. Dans 2 Corinthiens 11, 27, Paul dit qu'il était souvent dans les veilles, dans la faim et dans la soif. Mais il fallait ces occasions pour que Paul apprenne à être content. Et donc Paul a appris, s'il avait très peu, il se contentait. S'il avait beaucoup, il se contentait. Quand vous regardez dans le monde aujourd'hui, je pense que certains d'entre vous ont vécu dans des pays où les gens avaient beaucoup moins qu'en France. Mais est-ce que les gens sont moins contents qu'en France? Je dirais souvent ils sont plus contents qu'en France. Plus contents que nous en France. Pourquoi? Parce que justement, leurs attentes souvent, ils n'ont pas ces attentes insatisfaites. Ils ont appris à être contents avec le peu que Dieu donnait. Une idée qui exprime bien ce qui se passait en Paul aussi. Vous connaissez la différence entre un thermostat et un thermomètre? Justement, un thermomètre, c'est ce qui indique la température de son environnement. Tandis que le thermostat, c'est ça qui règle de température. Pensons maintenant à notre intérieur. La personne qui est toujours mécontent, il fonctionne comme un thermomètre. Tandis que la personne qui est, nous devrions être comme le thermostat. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose qui arrive, qui nous secoue, et Paul parle de ça aussi, quand il a appris que certaines personnes se détournaient de la foi, ou qu'une église avait des difficultés, Paul était momentanément déstabilisé. Mais il revenait vers Dieu avec le problème et il trouvait le contentement à nouveau. Donc vous allez avoir des problèmes, des difficultés. Chacun de nous a des difficultés. Et c'est à nous, devant Dieu, de trouver la solution. Paul arrivait à se focaliser sur l'essentiel, sur les choses éternelles et mais invisibles. Mais Paul nous donne le secret dans le verset 12 là, ainsi verset 13, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, chapitre 4. Il dit dans le verset 12, « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, et tout et partout j'ai appris à être rassasié et avoir faim. » Dans le verset 11, il avait dit « J'ai appris ». Maintenant, dans le verset 12, il dit « J'ai appris ». Mais il emploie un autre mot ici. C'est pas le même mot qu'il employait dans le verset 11. Ici, c'est un mot qui n'est utilisé qu'une fois dans le Nouveau Testament, et c'est dans ce passage. Ce mot indiquait l'idée d'apprendre les mystères, être instruit dans les secrets d'une religion. Et Paul est en train de dire ici, j'ai appris un secret. Et quel est ce secret que Paul a découvert? Verset 13, je pense que c'est le secret. Je puis tout par celui qui me fortifie. Christ est le secret au contentement. Christ est ce secret au contentement. On disait tout à l'heure que le contentement vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et ça vient de notre relation avec Christ. Et donc, comment Paul pouvait-il vivre d'une manière contente? Le secret était la puissance de Christ. Comme Paul disait dans Philippiens 1:21, Christ est ma vie. Au chapitre 3, verset 10, Paul dit, mon but est de le connaître lui aussi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Donc, Paul voulait connaître la puissance de la résurrection et aussi même la communion des souffrances de Christ. Et Paul trouvait cette puissance de la résurrection quand il souffrait de faim ou de soif, mais aussi dans les moments de joie. Les moments d'abondance étaient encore des moments qu'il vivait par l'aide de Jésus-Christ. Mais le verset 13 est souvent cité, je dirais mal cité. Qu'est-ce que ce verset ne veut pas dire quand il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie » Ce texte ne veut pas dire que je peux faire des choses extraordinaires par Jésus-Christ. J'avais l'ambition d'être un joueur de basket professionnel quand j'étais jeune. Mais vous voyez, je ne suis pas arrivé. Et je manquais de talent. Je jouais assez bien, mais pas suffisamment bien. Il faut être vraiment bien si vous êtes petit. Et alors, j'étais petit. Donc, ces deux choses m'ont empêché d'être un joueur de basket professionnel. Et même si je cite ce verset, je puis tout par celui qui me fortifie, c'est pas ça qui me, ça n'a pas donné ce que je voulais. J'entraînais beaucoup, mais encore, ça n'a pas donné les résultats espérés. Le texte ne dit pas non plus « Je peux recevoir beaucoup de la part de Dieu quand je suis dans le besoin. » Le texte dit « Je peux vivre avec très peu et être content. Par Christ, je peux le faire par Christ qui me satisfait. » Il y a des gens qui disent « Oh, je ne peux pas être heureux seul dans la vie. » On ne trouve pas ça dans la Bible. La Bible dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout par celui qui me fortifie. Je pense qu'on peut quand même dire que ce texte on peut faire la volonté de Dieu par celui qui nous fortifie. C'est-à-dire, ce qui est la volonté de Dieu, je pense qu'on peut réclamer ce verset. Mais dans le contexte proprement dit, c'est par rapport à, oui, c'est vivre dans des conditions difficiles que Dieu nous donne. Voilà. Mais, dans tous les domaines de la vie, en tout temps, Dieu veut que nous trouvions nos ressources en Jésus-Christ. Jésus est la source dynamique pour triompher de toutes circonstances de la vie. J'aimerais bien qu'on regarde 2 Corinthiens, je pense que c'est 12, 2 Corinthiens 12 là. Et verset 8 là, où Paul dit, trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, en parlant d'un écharde dans la chair, qui était là pour l'empêcher d'être enflé d'orgueil. Il dit, et trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors quand Paul était dans les difficultés de la vie, quand dans les privations, il est dans cette faiblesse. Et qu'est-ce que le texte dit là? Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et donc Paul dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Est-ce que quelqu'un ici dit, oh, je me plais dans les faiblesses? Paul le disait. Paul le dit. Dans les privations. Lisons le mot faim. Ou disette, qu'on a vu tout à l'heure. Dans les persécutions. Dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et je pense que Paul résume dans Philippiens 4, 13 ce principe. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et donc Paul trouvait ce dont il avait besoin dans les privations de la vie et dans les difficultés. J. Hudson Taylor démontrait cette puissance intérieure dans sa vie. Pendant de nombreuses années, ce missionnaire avait travaillé avec ardeur et il avait le sentiment de faire confiance à Christ pour répondre à ses besoins, mais il manquait de joie et de satisfaction dans sa vie chrétienne. Et un ami lui a écrit, a ouvert ses yeux à celui que nous devrions faire confiance, ce n'est pas en faisant confiance à sa propre fidélité, mais en tournant ses yeux vers le fidèle, vers Christ, qu'on trouve la puissance pour mener la vie chrétienne. Et ce fut un tournant décisif dans sa vie. À chaque instant, il recourait à la puissance de Christ pour chaque tâche de la journée, et la puissance de Christ le faisait avancer dans la grâce. Et nous avons besoin de cette même puissance à chaque instant, dans toutes les tâches de la journée, dans ces moments de la journée où on est mécontent, on est tenté d'être mécontent, quand on a faim, qu'on n'a pas eu des résultats qu'on désirait, de recourir à Christ pour trouver son aide. C'est un peu comme ce qu'on voit dans Jean 15, qui parle de où Jésus dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». Le chrétien à tout moment a besoin d'être attaché à Christ pour accomplir ce que Dieu désire. Nous sommes face à des difficultés dans la vie. Cette année, on va déménager. Et je dirais, j'ai lutté plus cette année par rapport à ce déménagement. Je n'étais pas content de quitter la maison où on habitait pendant des années. Ça m'a montré que peut-être je suis trop attaché à ma maison. Et que mes yeux étaient plus là que où ils devraient être. Et le Seigneur veut nous apprendre à vivre d'une manière contente. Paul arrivait à vivre d'une manière heureuse en prison. Il était souvent attaché, il est attaché au 24 heures sur 24 de ce que je comprends. Il était attaché à un autre homme. Et qu'est-ce que Paul faisait dans ces conditions? Il ne se lamentait pas. Mais il parlait de Christ. Il disait, tout le prétoire sait que je suis dans les chaînes pour Christ. Paul menait une vie de contentement en prison. Quel défi pour nous! Mais Paul avait appris le secret. Le secret, c'est Christ. Que la puissance de Christ est là pour nous aider dans les moments de privation, dans les moments d'épreuve. Que Dieu nous aide aussi à découvrir plus par rapport à ce secret.